Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Et nous avons une heure le dimanche pour ouvrir un livre. Aujourd'hui, c'est celui de Boudère. Comment ça va, Boudère ?
Comment tu vas, Philippe ?
Ben, ça va bien. C'est le plaisir
de voir. Je suis très content. T'as vu, j'ai pris ma voix littéraire.
Ouais.
Bonjour.
Ouais, c'est ça. Philippe. Vous êtes sur France Culture. Boudère is back. Alors, double actualité. Tu reviens sur scène après une interruption Covid.
Comme tout le monde, bien sûr.
Ouais. Sur la scène du grand point virgule.
Exactement. Du jeudi au dimanche.
Voilà, la semaine prochaine, du jeudi au dimanche.
Exactement. Je suis super content de retrouver le public, de retrouver cette ambiance et cette adrénaline d'avant spectacle et pendant spectacle.
T'arrives combien de temps dans une salle avant le spectacle, toi ?
Alors moi, je te jure, les gens ils vont me prendre pour un fou, mais j'ai une formation de footballeur. J'arrive 2 heures avant le match, donc 2 heures avant le spectacle. Je erre dans les couloirs.
En vrai ?
Ah ouais, non mais sérieux. J'arrive dans ma loge. Bon, moi, j'ai un décor, donc j'aime bien arriver tôt. Comme ça, s'il y a un problème avec le décor, on a le temps de rebondir. J'arrive tôt, je discute avec les placeuses, discute avec le directeur du théâtre. J'ai fait ça dans tous les théâtres où j'ai joué.
Ouais. T'as besoin de
j'ai besoin
sentir
de couper
le lieu.
J'ai besoin de couper avec le monde extérieur. De me dire, voilà, là, ça y est, hop, c'est Boudère l'artiste, le spectacle.
Ouais.
Et arriver 2 heures avant, ça me permet de.
De t'imprégner.
Ouais. C'est une technique qui marche très bien.
Ce qui paraît, tu arrives à repérer une salle et tu peux dire à peu près le nombre de personnes qu'il y a avant de démarrer, en gros.
Ça, je le sais quand je passe à la caisse et que je demande. Mais quand je demande, oui, on a combien de personnes ? J'ai aucun trac. Vraiment, Philippe, j'ai pas de trac, j'ai pas peur. La seule chose qui m'angoisse, c'est parce que je l'ai connu, c'est de jouer dans des salles vides.
Mais tu l'as fait, ouais.
Mais oui.
Et tu le racontes. Il y a encore pas très longtemps.
Mais oui. Attends. T'arrives. La salle, elle s'ouvre. C'est une salle qui prend. Ça m'est arrivé au Splendide. C'est une salle qui prend 350 personnes. Et quand le rideau s'est ouvert, il y avait 9 personnes dans la salle qui sont même pas venues ensemble. C'est-à-dire que t'en avais 2 là, une personne toute seule. Et ça me choquait. Ça me choquait. Ça m'a choqué. Donc aujourd'hui, jouer devant des salles vides, ça me fait peur.
Quand vous avez fait La Grande Évasion, vous avez connu aussi des salles plus ou moins pleines, hein, un peu.
La Grande Évasion, la chance qu'on a eue, c'est comme c'était une pièce de théâtre, donc on avait affaire à un public connaisseur de théâtre qui se mélangeait avec le public du stand-up.
Ouais.
Et on a eu tout de suite des salles pleines, mais malheureusement, on a connu, comme tout le monde, ce fait historique qui nous a tous fait mal au cœur et tous peinés, c'est les attentats du Bataclan.
Ouais.
Et nous, on jouait ce soir-là. On jouait vraiment La Grande Évasion ce soir-là. Et on a eu, ce qui m'a beaucoup touché, c'est un papa, un père de famille qui nous a dit, vous nous avez sauvé la vie en nous demandant de rester pour faire des photos. Parce que ça s'est vraiment passé à 10 minutes. On venait de finir le spectacle. Quand on est sorti pour faire les photos, ça sentait encore la poudre. Et ça nous a vraiment choqués. Nous, on pensait que c'était un règlement de compte. C'est ce que nous avaient dit les gens à peu près. Oui, il y a une personne qui s'est fait tirer dessus. Et moi, quand je suis rentré chez moi, je suis passé, j'ai vu des gens par terre. Ça m'a beaucoup choqué. Je suis rentré à la maison directement. Le quartier avait été vite bouclé par la police. Et ça m'avait choqué. Et après cet attentat-là, on s'est dit, nous, on va pas s'arrêter. On continue à jouer. Donc, on a eu des salles très, très vides. Nous, on était 3 sur scène. Une fois, on a joué avec 2 personnes dans la salle. Mmh. On a voulu jouer pour se dire, voilà, on va pas s'arrêter là, on va pas leur donner raison. Et voilà, quoi.
Alors, tu racontes pour la première fois ton histoire dans un livre qui s'appelle Un bout d'air, chez Hugo Document. Hein, donc, ça, c'est ton éditeur.
Hugo et compagnie.
Et tu racontes vraiment les hauts et les bas. Et alors qu'en général, les gens, quand ils réécrivent leur vie, racontent surtout les hauts. Alors que toi, finalement, tu dis, voilà, la vie, c'est comme ça. C'est des hauts, c'est des bas. Hein. Un jour, c'est plein, un jour, c'est vide.
Voilà.
Il faut faire avec.
Bah oui. Il y a eu une vie de Maupassant. Et là, il y a une vie de Boudère.
Ouais.
Et venir spolier ou raconter que ce qui va bien, ça me ressemble pas. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui. En plus, toi, tu m'as connu, Philippe.
Moi, je suis connu.
Tu m'as connu dans mes débuts.
Ouais.
Voilà, donc tu peux aussi en témoigner. Et c'est un livre que j'ai écrit. Enfin, ce que j'explique dans ce livre-là, c'est que la vie est faite de plein d'obstacles. Et qu'il faut les surpasser, faut pas s'arrêter. D'ailleurs, même dans mes remerciements, je fais des remerciements, tu sais, je fais des remerciements pas comme les autres.
J'ai vu à la fin que tu remerciais surtout ceux qui ne t'avaient pas aidé.
Mais oui, Je me suis dit, merci à vous, le banquier qui m'a pas pris dans son entretien d'embauche, parce que peut-être que j'aurais été banquier, je me serais ennuyé dans ma vie. Donc, je remercie tous ces gens-là qui m'ont donné un goût revanchard, pas haineux, hein, mais revanchard.
Ouais.
Revanchard de la vie, de se dire, voilà, là, ça marche pas, ouvrons cette porte, si elle s'ouvre pas, on en ouvre une autre, et puis voilà.
Ouais.
Et c'est un peu ça, le livre.
C'est presque un livre de dev perso, parce qu'aujourd'hui, tout le monde raconte, voilà, il faut se servir de ses échecs pour pouvoir rebondir, et c'est un peu ça que tu racontes.
Bah, c'est la vraie vie, c'est ça, parce que c'est vrai que quand on nous voit à la télé, ou on nous voit sur scène, ou au cinéma, on se dit que, ouais, bon, ces gens-là, tout va bien pour eux. Non, c'est pas vrai, on est des êtres humains. Quand le spectacle s'arrête, on rentre dans nos vies privées, on a des obstacles, et des obstacles même dans le milieu artistique. Mmh. Donc, voilà, un exemple, le Covid, c'est un obstacle. Tu vois, donc il va falloir qu'on reprenne de l'air pour avoir un nouveau bout d'air, tu vois.
Ouais.
Et tout le livre, c'est ça, c'est mon autobiographie, voilà, de ma naissance à aujourd'hui.
Oui, alors, à la naissance, justement, tu manquais d'air, c'est ce que tu racontes, mais bon, t'étais pas là le jour de ta naissance. Qui c'est qui te l'a raconté, cette scène que tu racontes avec ta mère qui va accoucher, il y a du monde, il y a un match à la télé, le toubib, c'est pas vraiment un toubib, et toi, t'arrives.
C'est pour ça que dans le livre, je fais parler ma maman, parce que c'est elle qui m'a raconté ça. C'est ma mère qui me raconte, qui me dit voilà, j'étais enceinte de toi et j'étais sur le point d'accoucher, mais comme on est comme elle est issue d'une famille où il y a beaucoup d'enfants, donc un accouchement en plus, c'était pas le premier enfant qui arrivait dans la famille.
Ouais.
Il y avait déjà eu ses sœurs avaient eu déjà plein d'enfants, mes tantes avaient déjà eu plein d'enfants. Donc pour eux, c'était un accouchement banal. Et ce jour-là, il y avait l'équipe du Maroc qui jouait, c'était la Coupe du monde 78. Donc c'était le centre d'intérêt de toute la famille et pas l'accouchement ou l'arrivée de Boudère, tu vois. Mais comment j'ai réussi à tirer la couverture vers moi, envers ma famille, c'est le fait d'être né asthmatique. Alors ici en France, l'asthme, c'est un truc c'est simple, mais moi je vous parle de 1978, l'été 1978, il fait 45 degrés.
Au Maroc,
et même pas au Maroc, au Maroc, mais dans un village perdu du Maroc, enfin dans un ancien oasis. Personne connaît ça. Le docteur qui vient, il est docteur, mais il est aussi mécanicien, chauffagiste, placoplâtre, plombier, il fait tous les métiers du village.
Vétérinaire aussi bien.
C'est pour ça qu'à un moment donné, il me confond avec un mouton. Mais c'était marrant. Et je trouvais ce récit tellement touchant. Et je me suis dit, tiens, il faut que je raconte ça. Je peux pas raconter autre chose, je peux pas mentir.
Et c'est ta mère qui te l'a raconté.
Et c'est ma maman qui me le raconte.
Ah, il y a aussi le moment. Bon, alors, tu as de l'asthme, hein, tu arrives, tu suffoques. Et là, on dit à ta mère que tu vas pas survivre.
Le docteur dit oui, cet enfant ne passera pas l'hiver.
Et il y a ton père quand même qui dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer.
Bah, mon père est ici en France, il travaille, c'est un jeune immigré qui travaille. Avec ma maman, ils avaient déjà eu mon grand frère. Et pour lui, c'était la naissance d'un deuxième enfant. Il était tellement content d'avoir un deuxième enfant qu'il n'avait pas encore vu parce que lui, il était ici en France. Et quand on lui apprend avec les moyens de l'époque, hein, Philippe. C'est pas
il
n'y
avait
mails,
pas de téléphone portable.
Pas de texto, pas de téléphone. Ouais. On lui apprend avec une lettre. C'est-à-dire déjà que la lettre, elle arrive un mois après ma naissance. Tu vois, c'est fou, quoi.
Quand on pense à ça, voilà.
Donc, je suis en août. La lettre, je crois qu'elle arrive début octobre. Et le médecin avait dit décembre, normalement, il n'y a plus de bout d'air.
Ouais.
Et mon père, quand il lit la lettre, il répond de suite. Il dit non, mais ça n'existe pas, ça. Moi, je suis en France, je vais tout faire pour vous ramener. Et cet enfant va vivre. Et la chance que j'ai, à ce moment-là, c'est que j'ai un cousin qui va arriver au bled pour passer les vacances. C'est mon père, au lieu d'envoyer par poste, il lui dit, tiens, la première chose que tu fais quand tu arrives au village,
t'amènes
tu donnes
la
lettre à ma femme. À l'époque, on mettait 4 jours pour arriver en Maroc en voiture. Et 4 jours après, ma mère avait la lettre dans les mains. Et il lui a dit, voilà comment il faut que tu fasses pour venir en Paris.
Mmh.
Et tout ce périple-là...
Et ta mère accepte, qui n'a jamais quitté son village, qui n'a jamais pris l'avion, qui ne sait même pas où c'est Paris, accepte de quitter sa vie pour te soigner, en fait.
Mais ma mère, c'est une maman, avant tout. Avant d'être la femme de quelqu'un, c'est aussi... C'est la femme de mon père, mais c'est aussi une maman. Une maman qui, tu sais, une maman, si tu lui dis ton fils va mourir, si tu lui dis, écoute, il faut partir en Indonésie à pied, pour qu'il vive, je connais pas une maman qui va pas le faire, quoi. Et ce qui était assez touchant et rigolo en même temps, parce que c'est toujours ma maman qui le raconte... D'ailleurs, je le dis dans le livre, je l'écris en disant, je vous laisse ma maman vous raconter.
Quand elle raconte l'avion.
Ben oui, mais parce que, Philippe, dis-toi bien qu'elle était dans un village où il n'y avait que 3 rues et que tout le monde se connaît. Il n'y a pas... c'est pas, pas d'obligation de monter dans une voiture ou dans une monture pour se déplacer, parce que le village était tout petit. Et d'un coup, on lui dit, tu vas prendre le car, tu vas prendre la voiture, tu vas prendre l'avion pour arriver dans un pays étranger, dans lequel il va falloir que tu parles, que tu comprennes une langue étrangère. Donc tout ce périple-là, je trouvais ça... Puis c'est un hommage que je rends à tous les parents. Moi, je suis surtout dans tous mes spectacles. J'aime pas me moquer de mes parents.
Tu dis mes parents, c'est héros en fait.
C'est des héros. Je peux pas me moquer de ma maman qui sait pas parler français, alors qu'elle a réussi à prendre tous les rendez-vous chez le dentiste, chez le pédiatre. Elle allait à Necker tous les matins.
T'as passé combien de temps à l'hôpital, toi ?
J'ai passé un an. Un an parce qu'il y avait des problèmes de respiration, des petits poumons. Je devais être bébé éprouvette, mais bon. Au village, j'avais pas d'éprouvette. J'ai failli finir dans une bouteille de Fanta. Et donc voilà, et tous ces petits.
Un an quand même, c'est
ouais, ouais. C'est énorme. Ouais. Mais ce qui fait serrer le cœur, c'est que quand t'arrives et on te retire ton enfant, on te dit rendez-vous dans un an. C'est maman, quand le docteur vient la voir, elle dit donnez-moi votre fils, il lui rend plus. Non, mais c'est un vrai choc, quoi.
L'hôpital des enfants, hein, l'hôpital Necker.
L'hôpital des enfants malades, à Necker. Et aujourd'hui que je suis artiste, reconnu, tout ça.
T'y vas?
Je suis super fier d'y retourner et de faire mes spectacles pour les enfants malades là-bas. C'est une sorte de je suis super content. C'est aussi un remerciement. D'ailleurs, je remercie aussi la France parce que.
Et puis, parmi les vrais remerciements, il y a ce pédiatre, hein, que tu, Monsieur Bonbon, que tu appelles.
Bah oui, parce que tu sais, quand t'es petit, tu te rappelles des gens qui ont pas été gentils et tu te rappelles des gens qui ont été très gentils. Et Monsieur Bonbon, qui est le professeur Marotto, qui nous a quittés, qui est décédé d'ailleurs l'année dernière, je me rappelle de lui parce qu'il nous donnait des bonbons. Tu vois, et nous, on l'appelait docteur Bonbon. Tu sais, il avait ce truc avec les enfants de se dire, bon, pour que les enfants n'aient pas peur de ma blouse, tiens, une petite sucette, tiens, un petit carambar, tiens. Tu vois, et je me rappelle de ce docteur-là qui me disait, voilà, je vais tout faire pour, parce qu'un jour, je lui dis, docteur, je veux faire du foot, mais je suis très petit. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais tout faire pour que tu grandisses. Il m'avait donné des petites ampoules.
Je racontais qu'il vous donnait des ampoules à prendre pour la croissance.
Pour la croissance. Voilà. C'est ma vie, quoi.
Vous êtes arrivé au 1m60 quand même. Facile.
Oui, tu vois, en été. En hiver, je fais 1m57. Non, mais oui, je suis arrivé au 1m60. J'étais super content, quoi. Mais voilà, quand on est petit, on s'accroche à des espoirs, on s'accroche à des paroles, et c'était ça, quoi.
Bon, Un bout d'air, c'est votre premier livre, votre histoire, Un bout d'air, qu'on feuillette ce matin dans le Book Club jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, Boudère, tu es en train de montrer ton livre.
Ah oui, pour pas que les gens se trompent.
Voilà, premier livre, parce que l'émission est filmée. Disons, il y a un budget blouson, c'est ce que je te disais en arrivant, parce que tu as beaucoup de blousons.
J'ai une histoire avec ces blousons.
Tu racontes ?
Ouais, ouais. Je te la raconte, c'est l'histoire d'un gamin qui est d'origine marocaine, qui a grandi et qui vit au Sénégal, et qui a inventé, enfin, qui fait des blousons Watts. Tu vois, et
ce fameux tissu,
ouais. Je suis tombé amoureux de ce truc là et 20% des bénéfices vont à une école, pour la construction d'une école à côté de Dakar. Donc voilà, j'ai créé entre guillemets ma marque avec lui.
D'accord.
Ça s'appelle Petit Dakarois by Boudère, quoi.
Donc et il a on une trouve ça où?
Bah dans les boutiques, et voilà, il a une collection spéciale Boudère. Cette collection-là, il y a 20% qui va pour la construction des écoles à Dakar, dans le village dakarois.
Bien. Donc, double actualité, tu sortes ton livre, ton premier livre. Ouais. Ça change de statut d'avoir un livre, parce que tu vas aller dans les émissions, tu vas parler de ta vie. Il a écrit un livre et tout.
Mais tu sais que le livre, je l'ai écrit pendant le confinement.
Ouais.
Tu vois, en parallèle des petites vidéos que je faisais avec mon fils pour rigoler. Je te jure que Philippe, je l'écrivais avec ma co-auteure qui est Carole, une fille extraordinaire. Et tu sais, tu l'écris et je l'ai oublié, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai oublié que j'avais écrit un livre. C'est ça que mon éditrice m'appelle, elle me dit, Boudère, ça y est, on a reçu le livre
en
pochette, en vrai. Je te jure, le jour, tiens, Marie qui est là, qui est attachée de presse du livre, elle était là le jour où j'ai commencé à signer. Je lui dis, mais j'ai pris une pause, je dis, mais j'ai écrit un livre, là. C'est que ça te fait bizarre, quoi. Ouais. Surtout quand on dit Boudère.
Tu vas être à la FNAC et tout,
oui, j'imagine. Oui, puis à la rentrée littéraire. T'imagines qu'on dit... Alors,
t'es en pleine rentrée.
Je suis en pleine rentrée littéraire.
Ouais.
Je me suis pris pour Émile Zola à un moment donné. Je me suis dit, il y a du Zola là-dedans, là. Non, mais ça m'a fait petit que c'est fou d'écrire un livre, quoi.
Ouais.
Et moi, je, voilà, je connaissais pas ce monde-là et je suis super fier de l'avoir écrit. Ouais.
C'est bien parce que tu expliques pourquoi t'as écrit ce livre. Et tu dis, je voudrais que les gens comprennent ma vie.
Ouais, je veux que les gens comprennent ma vie plutôt qu'ils m'en inventent une. Tu vois, dans les réseaux, par exemple, sur Google, tout ça, tu tapes Boudère, les premiers articles qui sortent, c'est Boudère et sa maladie.
J'ai vu ça.
Alors que mais je suis pas malade. Je l'ai dit à maintes reprises dans des...
Si, il y a une maladie que tu as, mais dont on ne peut pas parler à l'antenne.
Mais laquelle? Je suis fou. Non, mais c'est vrai, je suis pas... On prête des maladies de fou. On me dit, Boudère, il a la schépilose, la je sais pas quoi.
Ouais. Et en plaque.
Ouais, voilà. Non, mais moi, ça me fait rire.
Oui.
Moi, je te jure que ça me fait rigoler. Je suis en plein dans l'autodérision, donc j'ai pas ce souci-là.
Ouais.
Mais ce qui me chagrine, c'est qu'il y a certaines mamans ou certains parents qui ont des enfants malades et qui m'appellent à témoin ou qui m'envoient des messages sur Facebook pour me dire, mon fils est atteint de la même maladie que vous.
Génétique en plus.
Génétique, donc ça veut dire que ça remonte à des grands-parents.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu peux répondre? Comment répondre à un papa ou à une maman en détresse parce que son fils ne s'accepte pas ou parce que son fils est malade? Faut trouver le bon ton. Parce que si je leur dis je suis pas malade, ils vont dire oh, c'est bon, il accepte pas sa maladie. Et si tu leur expliques que tout ce qui est dit sur Internet c'est pas vrai, tu sais, il faut prendre le temps, quoi. Sauf que moi, j'ai plusieurs parents. Et je me suis dit, un jour, je vais prendre, peut-être en pleine promo, je parlais pas du livre, je parlais du spectacle, j'en parle dans le spectacle, je dis, je suis pas malade. Donc, je l'explique dans mon spectacle, que je dis que mon physique vient de mon grand-oncle.
Tu ressembles à ton grand-oncle.
À mon grand-oncle, qui est docteur, qui était un docteur et un pédiatre hors pair dans le village, et dans toute la région, Algérie, Maroc, parce qu'on est dans une ville frontière à la frontière algérienne.
Ouais.
Et il avait beaucoup exercé en Algérie et au Maroc. Et je suis fier d'avoir son visage, je suis fier d'avoir son physique, et je suis fier de le représenter. Mais je représente pas une maladie où, attends, on a été me chercher. Attends, je reçois des photos de gamins. Je te jure, tu les vois, tu dis, mais attendez, les mecs, je ressens pas à ce gamin-là. J'espère qu'il va guérir. Mais voilà. Et voilà, c'était très compliqué pour moi.
Ce qui est intéressant, c'est parce que tu en parles dans ton livre, tu dis, en France, vous avez un problème, vous avez du mal à accepter la différence.
Mais en France, c'est le pays, on est le pays de l'étiquetage. Il faut étiquer, il faut mettre une étiquette. Alors les étiquettes, elles sont multiples, homo, homosexuel, islamiste, truc, tête bizarre. Non. Moi, j'ai envie de dire, venez, on fait une pause. Venez, on s'aime comme on est, avec nos têtes, avec nos différences.
Mm.
Et d'ailleurs, c'est pas une différence, parce que si on dit on est différent, ça voudrait dire qu'il y a une normalité. Moi, je suis contre la normalité. Moi, personne n'est normal pour moi. On est tous, chacun a son truc. T'imagines si on avait tous la même tête?
Mais je suis d'accord avec toi.
Mais on s'emmerderait rapidement.
Ouais,
là, c'est bien, tout le monde... Et alors, moi, je le dis, j'ai du recul, parce que ça me fait rire, je suis humoriste. Je prends le côté second degré, je rigole beaucoup. Mais je pense à la petite gamine qui est au collège, qui est un peu ronde, et que toutes ses copines se foutent d'elle parce qu'en lui disant, ouais, tu ressembles à Peggy la cochonne, ou t'es grosse, et qui finit par se suicider parce qu'elle en a eu marre de recevoir des messages sur
les
trucs.
Sur les réseaux.
Tu vois, voilà. Donc, pour moi aussi, ce bouquin, c'est une manière de dire aux gens, hey, il n'y a pas de différence. On est tous pareils. On a le même. Si tu m'ouvres, j'ai du sang rouge comme le tien. On est pareil. Arrêtons de trouver une étiquette à chaque truc. Il n'y a pas de, pour moi, voilà, on est français parce qu'on est en France, on a tous des origines et faut se nourrir, c'est de l'or ce qu'on a entre les mains. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche, je l'explique dans mon spectacle.
Et tu dis, moi, mon physique, c'est mon outil de travail.
Ben, c'est mon bureau. C'est mon bureau de travail. Et j'en suis fier et et moi, jamais, mais au grand jamais, depuis que je suis né, je me suis jamais enfermé dans ma chambre. Déjà parce que j'avais pas de chambre, mais je me suis jamais enfermé.
Vous étiez quatre.
On était quatre dans la même chambre. Voilà, donc je me suis jamais enfermé dans ma chambre avec mes frères, en pleurant, en disant, oh putain, j'ai un long pif ou j'ai une grosse tête. Non. Moi, je suis dans la vanne, je kiffe. J'ai jamais eu de problème avec les filles. Pour avoir des filles dans ma vie, des conquêtes, parce que c'est un peu ça qui...
Dans ton livre, tu dis pécho.
Oui, pécho.
Parce que moi, je suis vieux.
Oui, alors pécho, ça veut dire choper.
Ah, d'accord. Et choper.
Voilà. Choper, j'ai toujours eu des filles dans ma vie, j'ai pas eu de problème. Je suis rarement resté célibataire très longtemps.
Il y a une scène que t'expliques pas vraiment. À un moment donné, il y a une boum qui est organisée. Vous êtes pas invité avec ton pote. Est-ce que tu sais pourquoi ils vous ont pas invité?
Ben, c'était à la fac. Ça, c'était à la fac.
C'est bizarre, ce truc.
C'est mes années fac, ouais. Ben, tu sais, quand t'es à la fac, après, moi, c'était surtout, c'était à la Sorbonne. Donc, forcément, t'as tous les milieux sociaux qui se rencontrent. Et, inconsciemment, on s'assoit à côté de celui qui a, entre guillemets, le même milieu social que toi. Et ça crée aussi, tu vois, ça revient à l'étiquetage. Et il y avait une fille qui avait fait une soirée, qui faisait une boum et qui a failli nous dire, je fais une boum samedi, ça vous dirait de pas venir. Tu vois?
Ouais.
Donc, on a eu ça a été un premier rejet, ça a été un obstacle. Je me suis dit, merde, déjà, à la fac, quand je suis arrivé, il y a des gens qui me parlaient tous les matins et qui voulaient être mes potes et je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, mais je les connais pas, ces gens, pourquoi ils viennent me... Donc, peut-être, moi, je l'ai pris de manière drôle. Je me suis dit, moi, peut-être que je leur plais, peut-être que... Ouais. Et au bout d'un mois, quand je leur ai demandé pourquoi ils s'attachaient à moi, ils disaient, non, mais est-ce que tu peux nous ramener de la coke ou du shit? Et ils m'ont réduit à ça, je te jure, ça a été un premier choc. J'ai dit, non, mais moi, ouais, j'ai grandi en quartier, mais je suis pas dans ce truc. Je suis là pour étudier, comme toi. Et du jour au lendemain, je suis moins devenu leur pote.
Il y a le vide.
Oui, il y a un vide. Ouais. Donc, du coup, j'ai commencé à marcher et j'ai rencontré d'autres gens qui voulaient pas être leur pote non plus. Et puis, on est devenus des potes. Et tu vois, c'est un truc que j'ai vécu. C'est un obstacle que j'ai vécu.
Ouais.
C'est une coupure d'air.
T'aurais aimé être footballeur?
Oui. Ah oui.
Mais pour en faire quoi finalement? Pour vraiment être un footballeur professionnel?
Bah moi je suis de la génération du football d'avant, 86.
Ouais, Maradona. Tu sais, t'as des références qui datent un peu quand même au niveau des...
Bah oui, parce que je suis né en 78, j'avais 8 ans, pendant la grande Coupe du Monde 86, où la fameuse équipe marocaine, elle avait été hyper loin avec Aziz Bouderbala, dont je porte le surnom. Et oui, j'aurais voulu être footballeur parce que le football de l'époque me plaisait énormément. C'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as des gamins qui veulent devenir footballeurs pour avoir des sous,
ouais,
avoir une Porsche et des gonzesses. Moi, le football d'avant, c'était vraiment avoir cette ambiance de vestiaire, être professionnel et rendre fiers mes parents et ma famille.
Alors, parmi les anecdotes que tu racontes, hein, alors tu as joué longtemps poussin. Au foot.
Alors j'ai joué dans une catégorie qui s'appelait les poussins. Les poussins, c'était des les gamins de 8 ans.
De 8 ans, c'est ça, ouais.
Ouais.
Alors que t'avais plus 8 ans.
Oui, mais j'avais la taille de 8 ans.
D'accord, OK. D'accord.
Donc j'avais une taille d'un gamin de 8 ans et l'entraîneur justement pour pas me blesser, il m'a dit écoute, tant que t'as cette taille-là, tu peux continuer à jouer avec moi. Et puis j'ai été joué.
Sauf que tu enlèves la moustache.
Sauf là, j'avais pas de moustache, mais tu sais ce qui est marrant Philippe, c'est que pendant les matchs, j'oubliais que j'en avais 12. J'oubliais que j'avais 12 ans. J'étais à fond dans mon truc.
Ouais.
Ouais. Et donc, j'ai eu cette fameuse anecdote avec un des recruteurs du PSG qui est venu me voir.
Qui a remercié parce que tu parlais justement des remerciements
oui,
à la fin de ton livre.
Oui, dans le
remerciement. Donc, tu remercies.
Qui est venu me voir, qui m'a dit, mais mon petit, tu joues tellement bien. J'ai un avenir pour toi au PSG. Mais le PSG de l'époque, de Ginola, tout ça.
Matra.
Du Matra Racing et tout. Et moi, je cours vers mon entraîneur. Je dis, oh là là, il y a un recruteur du PSG qui me veut. Il dit oui, mais attends, mais tu sais que pour lui, t'as 8 ans, alors que t'en as 13. Alors redescends.
Montre ta licence.
Oui, montre ton vrai nom et ton vrai prénom. Et donc, ça a été aussi un obstacle et une coupure d'air. Ouais.
Aujourd'hui, t'es président d'honneur d'un club. Hein.
Je suis président d'honneur du FCM Aubervilliers.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
C'est un club amateur.
Ouais. Pourquoi ça?
Parce que j'adore ce foot. J'adore ce football social, ce football famille. Ce football qui est plus dans le... Alors, les résultats sont importants, mais qui est plus dans le social, plus dans l'aide, plus dans... Enfin, un vrai côté familial, quoi. Moins fric, tu vois. Moins oseille, ouais.
C'est la mère d'un tel qui lave les maillots, c'est...
Ouais, c'est...
C'est un peu ça, quoi.
C'est Tata Fatia qui s'occupe de la buvette, c'est ouais. Toi, j'adore ça, moi. Ouais. Tu vois, c'est moins...
Tu joues encore un peu avec eux, tu t'entraînes ou pas?
Alors, je m'entraîne avec la CFA, ouais, de temps en temps. Parce que l'entraîneur, c'est vraiment mon ami et c'est un ami d'enfance et justement, c'est par son bien à lui que je suis attaché au club. Et ça fait 15 ans que je les suis et j'ai plus de facilité à aller regarder Aubervilliers qu'à aller voir le PSG, quoi. Tu vois? Si tu veux, Aubervilliers, c'est l'antithèse du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, à Paris Saint-Germain, on n'a pas peur d'acheter un joueur à 150 millions d'euros Et à Aubervilliers, à 50 euros près, on pourrait pas te prendre. Tu vois.
Mais c'est ton esprit. On voit à un moment donné où tu entraînes une équipe. Finalement, ouais. Pour toi, l'esprit, c'est plus important que la gagne, en fait.
Je te jure que mes plus belles années de ma vie, hein, c'est quand j'étais éducateur pour enfants. Parce que j'étais justement entraîneur des poussins au FC Paris 10. Et c'était mes plus belles années parce que j'étais au contact des gamins. Et on rigolait tout le temps. On s'entraînait le mercredi, on jouait le samedi, on faisait des tournois le matin. Et les mômes, les gamins, aimaient être dans mon équipe. Pas pour mes résultats, parce qu'on perdait tout le temps. Mais pour la rigolade dans le vestiaire.
Ouais.
Et dans mon vestiaire, il y avait de tout. Il y avait la France, quoi. Il y avait de tout et j'étais super content et super heureux. C'est vrai qu'un jour j'ai été approché par un papa qui m'a dit oui, mon fils m'a dit vos résultats, vous avez perdu 13-1 samedi dernier, le samedi d'avant vous avez perdu 22-2. Je lui dis oui, mais c'est quoi votre problème? Il dit ben quand est-ce que vous gagnez? Je dis mais c'est qui votre fils? Il m'a dit mon fils s'appelle Ryan. Je dis ben si vous voulez qu'on gagne, il faut pas que Ryan y joue. Ça l'a fait rigoler. Je dis moi, est-ce que Ryan il est heureux quand il rentre à la maison? Il dit oui, il vous adore, il a passé une bonne après-midi. Je dis voilà, bah si vous voulez qu'il ait des résultats et qu'il devienne footballeur professionnel, c'est vraiment pas dans ce club qu'il va devenir footballeur professionnel.
Bien, on déroule la vie de Boudère ce matin qu'on retrouve dans ce premier livre, Un Boudère chez Hugo et compagnie, et on parlera de la grande Dorothée tout à l'heure.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club qui a lu le premier livre de Boudère aujourd'hui, ça s'appelle Un Boudère.
Voilà. Tout simplement.
Tout est dans le titre.
Ouais.
Chez Hugo et compagnie, un livre que vous avez écrit pendant le confinement, vous avez été très sollicité pendant le confinement. Ça vous a rapproché de votre fils, c'est ce que vous expliquez. Vous vous êtes redécouverts tous les deux. Pourquoi vous ne vous connaissiez pas?
Non mais c'est vrai que c'est rigolo. Pour ma part, le confinement a été un truc très bénéfique. Quand je dis j'ai découvert mon fils, parce que mon fils, je le connais. Je le vois tous les jours, mais je le vois à des heures précises, à des moments précis, c'est-à-dire bon, à 4h30 jusqu'à 18h pour la pause goûter. Après, moi, je vais au spectacle, je rentre, il est très tard, il dort. Donc, on le voit pas trop grandir. Et pendant le confinement, j'étais avec lui du matin au soir. Donc, j'ai découvert une personne avec qui je partageais ma vie, mais dont forcément je ne connaissais pas tous les traits.
La vie de tous les jours.
Oui, voilà. Ouais, ouais. Et puis donc on a mis en place de l'aide aux devoirs. Et un jour pendant qu'on faisait de l'aide aux devoirs, il m'a demandé qu'est-ce que c'était qu'un déterminant. Et ça m'a ramené aux années CE parce qu'il était en CE2. Et moi je savais pas et donc j'ai commencé à improviser. Il était mort de rire. Et je lui dis tu sais quoi, on va filmer ce truc. On va le mettre sur les réseaux et on va s'amuser, quoi. Et on savait pas que ça allait presque additionner presque 6-7 millions de personnes.
Waouh!
Ouais, vraiment. Ça avait même intéressé le président de la République, qui m'a écrit, qui m'a dit.
Emmanuel Macron.
Ouais.
Il t'a écrit comment?
Ben, il m'a envoyé une. En fait, il y a une photo dans laquelle on le voit en train de rire, en train de regarder une de mes vidéos. Alors que le pauvre, il y avait des moments où c'était pas très drôle.
Ouais.
Et il m'a écrit, il m'a dit merci pour ces moments de sourire qui égayaient mes journées très chargées.
Bon.
Donc j'étais super content et très fier.
Alors bientôt votre spectacle, hein, qui déjà dont le titre est en anglais puisque c'est
Boudère is back, il n'y a rien d'anglais.
Va aller tourner à l'étranger et on a vu comment vous avez répété votre anglais. Hein. C'est un document qu'on va récupérer, Nicolas, sur la vidéo en anglais.
Traduisez en français les mots suivants. Alors. Lisez les mots en anglais.
A bag.
A bag.
A bag.
A bag. Alors, a bag, c'est simple. A bag, c'est quand tu veux te marier avec une fille, tu lui offres...
Une bague.
Voilà. A bag, c'est la bague. Voilà. Where do you live? Alors, where? Where, ça veut dire où? Quand tu dis où, c'est où? Do you live? Live, c'est le live. Dès quand il y a un match de foot, il y a les rediffusions et il y a le live. C'est le live, c'est en direct. Alors quand par exemple tu as la télécommande et tu cherches où le match qui est en live, tu dis where do you live? Where do you live? Après ton copain dit hey, in Canal Plus. Quand c'est sur Canal Plus. Vas-y, et là.
Where is your book?
Where is your book? Alors where, c'est où? C'est l'anglais, c'est toujours une langue où ils cherchent où. Where is your book? Your, c'est ton. Book, ton père. Où est ton père? T'as vu, book, c'est comme en arabe. Book. Book. Et si c'était avec un C, ça aurait été le book. Where, il est où ton book? Il est là. Et where is your book avec un K? K, c'est le père. Where is your book? Il est où ton père? Par exemple, where is your book? It's
Boudé.
Voilà, it's here. Here, ça veut dire c'est moi.
Et votre fils s'est pris au jeu, hein, ton fils s'est pris au jeu.
Ouais, on écoute, je te jure que ce qui était marrant, c'est de se dire, on partageait nos matinées comme ça, on disait, on va faire les devoirs sérieux, et après on fait les devoirs rigolos. Donc les devoirs sérieux, c'était vraiment les vrais devoirs, et les devoirs rigolos, c'était ça, et ils se prêtaient au jeu, et franchement, on s'est bien amusé.
Ouais. Total impro ou travaillé?
Impro travaillé. En fait, je m'étais, enfin, c'est monté, donc j'enregistrais, et on partait en live tous les deux, et puis je gardais les meilleurs moments, quoi. C'est bien, ça m'a fait travailler, ça l'a fait kiffer, je suis super heureux et content que le public ait apprécié.
Accroché. Ouais. Boudère, donc tu disais tout à l'heure que c'est tu dois ton nom de scène ou ton surnom, mais ça fait longtemps qu'on te surnomme comme ça grâce à Boudère Bala.
Exactement, hein. J'avais 6 ans.
Là, tu racontes que vous étiez
bah oui,
il y avait pas de Mario Floquet à l'époque.
Bah, il y en avait, mais c'était payant. La lettre était à 15 ou 20 francs à l'époque, ça coûtait super cher. Donc moi je me suis dit pourquoi floquer, je vais écrire au stylo sur mon dos. Sauf que Boudère Bala, ça s'écrivait, c'est à toutes les lettres de l'alphabet dans ce nom. Donc j'avais pas la place de mettre Bala, et il restait plus que Boudère sur mon dos. Et dans le quartier, quand ils me voyaient, ils m'écriaient Boudère, 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 et puis voilà.
Ouais. Aujourd'hui, qui t'appelle encore Mohamed?
Alors, qui m'appelle encore Mohamed?
Est-ce qu'il y a encore des gens qui t'appellent Mohamed?
Le commissariat, oui. Ouais. Non, je rigole. Là où quand je reçois une... Tout à l'heure, on m'a appelé justement pour me livrer des livres. On m'a dit bonjour, monsieur Mohamed. Ça doit être... C'est qui? Oui. Ah oui, pardon. Donc quand on m'appelle Mohamed dans la rue, c'est très rare que je me retourne. Parce que même à l'école, même mes profs, les proviseurs disaient Boudère.
Donc ouais. C'est une identité qui vraiment te... C'est toi maintenant aujourd'hui?
Bah c'est moi quand tu dis Boudère, ma tête qui apparaît.
Tes frères, ils t'appellent Boudère ou Mohamed?
Ouais, ils m'appellent Boudère. Ouais. Ouais, mes frères, ouais.
Ouais.
Mais entre frères, on se dit grand frère, petit frère, on s'appelle comme ça, mais en arabe, quoi. Roya, on dit Roya.
Ouais. Dans ton livre, tu t'expliques un peu les relations que tu as avec tes frères, hein, et le pacte qui vous unit. T'as combien de frères?
J'ai 3 frères. Ouais. On est une famille de 4 garçons. Et on a un pacte très fort parce qu'on est une famille très soudée. C'est-à-dire que moi, mes frères m'ont jamais dit j'aimerais être comique ou j'aimerais m'occuper de toi ou faire ta mise en scène. Non, non, moi, mes frères, ils m'ont toujours dit écoute, fonce. Si un jour tu tombes, on est là pour te relever. Et c'est le pacte qu'on a entre nous. C'est-à-dire que moi, je suis le deuxième. J'ai un grand frère.
C'est pas le grand frère, ouais.
Non,
ouais.
Mais j'ai les symptômes du grand frère. C'est-à-dire que moi, mon grand frère, il habite en Allemagne. Il est parti vivre là-bas avec sa femme et ses enfants. Et j'ai mes 2 petits frères dont j'ai été tout le temps responsable. C'est-à-dire le dernier, j'ai été son entraîneur. Celui qui est juste après moi, on est très, très, très complices. Mais on a gardé ce lien familial qui n'est pas basé sur le profit ni sur le... Non, c'est basé vraiment sur de l'amour et sur...
Pas la dynastie avec, ouais, avec toi qui fait tourner toute la tribu finalement.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est vraiment pas dans ce truc-là. On a été éduqués vraiment de manière, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Nos parents nous ont donné beaucoup d'amour. Je peux pas sur scène ou même dans mes interviews dire que ouais, mes parents étaient durs avec moi. Non. Mon père ne m'a jamais tapé, ma mère ne m'a jamais tapé. J'ai pas connu cette violence qu'auraient peut-être pu connaître d'autres gens, mais je l'ai pas connue. Mon père, je raconte sur scène, mon père ne m'a jamais tapé, il faisait pire que ça. Il me faisait la morale pendant des heures et des heures. Mais c'est pire que taper un enfant, hein, parce que parle pendant 4 heures, c'est compliqué.
C'est quoi, sur l'école, sur les...
Sur l'école, sur le comportement, sur que vas-tu devenir dans la vie, sur le fait que je le représente quand je sors de la maison, que je représente l'éducation qu'il m'a donnée.
Ah ouais.
Donc je peux pas...
Ah, t'es dépositaire de ça, en fait.
Ah oui, bien sûr. Ah ouais, moi, je vous ai inculqué quelque chose. Je veux pas qu'on me dise, je crois que l'une des plus grandes insultes qu'on pourrait dire à mon père, c'est, qu'on pourrait nous dire à nous, pardon, c'est, vous manquez d'éducation, vous êtes mal éduqué. Parce que ça remet en question.
T'as mal fait ton boulot, en fait.
Ouais, bah oui, c'est surtout ça. Ça. Bah attends, c'est, quand tu auras un rapport, si on te dit, ouais, c'est mal fait, c'est que t'as mal travaillé. Et ça, mon père ne veut même pas l'entendre. Il dit, moi, je vous ai très bien éduqué. C'est-à-dire, sur scène, je peux pas raconter une autre vie que la mienne. Dans ce bouquin, je peux pas raconter une autre vie que la mienne.
Tu parles de ton islam dans ce livre, très sérieusement,
ouais.
et du rapport que tu as à toutes les religions, parce que toi, toutes les religions t'intéressent finalement.
Oui, toutes les religions m'intéressent parce que je suis musulman,
ouais.
Et en tant que musulman, je m'intéresse à toutes les religions. Parce que moi, j'ai reçu une éducation musulmane. Mon père est quelqu'un qui fait des prêches encore aujourd'hui. Alors, il connaît très bien Abdelali et tout ça.
Notre imam.
Votre imam que j'adore. Hein. Et
bientôt sur scène, il faut l'imam show.
Mais voilà, j'ai reçu... Moi, j'aime pas dire j'ai reçu un islam... j'ai reçu le vrai islam, l'islam de la tolérance. Non, mais
c'est ce que tu dis, c'est ce que tu
oui,
expliques.
C'est ce que j'explique.
L'islam, ta mère, quand elle le définissait, elle disait l'islam, c'est une religion de tolérance.
De tolérance, de bon paix. Comportement, de bien se comporter envers les gens, d'être honnête, de pas voler, d'être carré. Après, bien sûr, les éthiques religieuses, la prière, tout ça, c'est un truc qui est propre à la personne. Mais avant de prier, avant tout ça, faut d'abord être, faut être un bon mec, faut être une belle personne.
Tu dis, il faut que ton voisin, il bouffe, quoi.
Ben, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est dans la religion musulmane. Nul ne peut être musulman, nul ne peut se prétendre être musulman si lui mange à sa faim et que son voisin meurt de faim. Et quand on dit voisin, on précise pas voisin musulman, voisin de... peu importe sa religion, même s'il en a pas. Moi, j'ai grandi à la Grange Jobel, au premier étage, en face de chez moi, il y a une famille corse, chez PJ, Pierre Jean. Quand ma mère, elle faisait un plat, elle faisait un plat pour nous et un plat pour PJ, pour la famille de Pierre-Jean. Et ils étaient très contents et on a grandi ensemble. Et c'est vrai que pour moi, la religion, c'est ça. Au quatrième étage, j'avais une famille juive pratiquante avec qui j'ai grandi. Et quand il y avait Shabbat ou un truc comme ça, je les attendais en bas pour ouvrir la porte. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de toucher le truc. Comme eux, quand c'était l'Aïd, ils venaient nous voir pour nous souhaiter le bon Aïd. Et pour moi... ce qui est malheureux, c'est pas, je suis pas une famille, c'est pas, ce que je veux dire, ce que je raconte. Il y a plein de familles qui sont comme ça, Philippe.
Mais c'est la majorité.
Oui, c'est même tout le monde.
On parle que de.
Voilà,
que
ce
des
qui est
autres.
Malheureux, c'est qu'on veut pas mettre la lumière sur ces gens-là. Moi, j'aimerais bien un jour être assis et regarder un enquête exclusive et on va dire, regardez comment vivent les familles françaises.
Mohamed Sifaoui est allé enquêter.
Ah, bah lui, fatigant. Mais alors je l'invite moi à aller dans les banlieues où il y a des familles juives, des familles françaises d'abord, de religion juive ou des athées ou des musulmans qui vivent ensemble en harmonie, que tout se passe bien. Et ça, il y en a plein dans toute la France. Mettons la lumière sur ces trucs-là. Parlons des choses positives. Combien de temps on va vivre? 80, 90 ans? Essayons de kiffer cette vie.
Tu manges bio toi, donc c'est peut-être 100.
Mais je mange bio, alors je mange pas. Je suis à peu près. Non, mais voilà, essayons de vivre ensemble. C'est ce que raconte mon livre.
C'est exactement ça. C'est le et tout ce qui t'a été inculqué, ta colonne vertébrale.
Exactement.
Aujourd'hui, t'as envie de jouer quoi au cinéma? Parce que tu racontes dans ton livre le kiff que ça a été pour toi de découvrir le théâtre.
Ouais.
De te retrouver avec un texte à jouer, du vrai théâtre. Et aujourd'hui, par exemple, t'auras envie de jouer quoi?
Aujourd'hui, moi, j'ai pas le syndrome Coluche. Tu sais, j'ai plein de copains comiques.
Tu veux faire des sérieux, ouais, des rôles sérieux.
J'ai pas envie de faire pleurer les gens. Je suis en train d'écrire un film là. D'ailleurs, on a fini la première version, qui est une comédie dramatique, parce que c'est une comédie touchante. Mmh. Ça se passe dans les hôpitaux, et c'est pour ça que c'est touchant, mais c'est aussi très drôle. J'ai pas envie de faire pleurer moi. Moi, mon kiff, franchement, si on m'écoute. Si un réalisateur m'écoute, j'aimerais bien, moi, être un pirate. Moi, mon rêve, c'est de faire tout le temps rire les enfants. Voilà. Tout ce que je fais, tout ce que j'écris, tout ce que je mets en place dans ma carrière, c'est vraiment des trucs, ambiance famille. Je veux que les parents, c'est ouais. Ce qui se passe dans ma salle, les grands-parents, les petits-enfants, partagent un moment en venant me voir ou en me lisant, parce que ça aussi, c'est un livre qui est facile à lire, même pour les enfants. Et donc, voilà, c'est mon kiff, c'est de faire rire les gosses. C'est vrai, hein. D'ailleurs, je parle de Dorothée, parce que Dorothée a été...
Tu dis que t'es pas fan, en fait. T'es fan de personne.
Non, j'ai jamais été fan. Franchement, j'ai jamais... même Aziz, j'aimais beaucoup Aziz.
Garbala, ouais.
Mais voilà, Maradona, pareil, d'ailleurs, que j'ai rencontré.
T'aurais pas couru pour un selfie?
Non, j'avais pas ce truc-là. Par contre, la seule personne qui aurait pu me faire trembler, c'est Dorothée. Et elle est venue me voir en spectacle, et j'étais... tellement touché. J'en ai perdu mes mots sur scène alors que ça m'était jamais arrivé.
Dorothée du club Dorothée.
Ben attends. Dorothée. Ouais. C'était Dorothée. Exceptionnel. Mais t'imagines, oui. Ouais. Les mercredis après-midi, il n'y avait pas un mec de quartier dans le quartier. On était tous en train de regarder le club Dorothée. Elle avait vaincu la délinquance à elle-même. Non, mais c'était super, quoi. On galérait pas dans le quartier.
Qu'est-ce qu'elle t'a dit quand vous êtes rencontrés?
Elle avait été. Bon, alors, écoute, elle était hyper émue et elle connaissait mon travail, alors que si ça m'a touché. Elle était hyper émue et touchée que je lui rende hommage.
Ouais. Frédéric.
Frédéric, que j'aime et que j'embrasse très fort.
Bien, la suite est dans ton livre « Un bout d'air ». De retour sur scène, puisque Boudère is back au Grand Point Virgule à Paris, donc à partir de la semaine prochaine. C'est du jeudi au dimanche à 21h.
Le jeudi au samedi à 21h et le dimanche à 18h.
Ah oui, c'est en après-midi, ouais, c'est vrai, le dimanche. Ouais, c'est sympa. C'est ouais. Bien, comme ça, t'as fini tôt.
T'as fini tôt, tu rentres, tu te laves les dents, le lendemain, il y a école.
Boudère sur Beurre FM, merci d'avoir été avec nous. Merci, bon dimanche à tous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.